de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le consulat américain à Chengdu a reçu l'ordre de fermer. Le personnel a quitté le bâtiment. L'absorption du budget de COVID-19 n'est pas optimale, a déclaré le président Jokowi. Luhut a déclaré que trois pays pourraient être imités par l'Indonésie pour gérer avec succès la COVID-19. La Chine signale à nouveau une augmentation de cas de virus corona. Bill Gates assure que la Corée du Sud est en mesure d'imprimer 200 millions de vaccins corona. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Le personnel du consulat général des États-Unis à Chengdu a mis fin au processus de vidange du bureau dimanche, compte tenu le gouvernement chinois a ordonné la fermeture du bureau de représentation lundi dernier. Lors de la vidange, les forces de sécurité ont renforcé la sécurité à l'extérieur du bâtiment. La fermeture du consulat chinois à Houston et du consulat américain à Chengdu a aggravé les relations des deux superpuissances économiques mondiales. Avant la fermeture, les relations entre les deux avaient été tendues en raison de différences sur diverses questions, notamment le commerce, la technologie, la pandémie de COVID-19 et les revendications unilatérales de la Chine dans la mer de Chine méridionale. Le président Joko Widodo a rappelé à son personnel de publier divers percées politiques car la réalisation du budget pour la gestion de COVID-19 et la reprise économique nationale n'a atteint que 19% ou 136 millions roupias sur le total budgété de 695 millions roupias. C'est ce qu'a affirmé le président dans la réunion restreinte en ligne du Palais Merdeka à Jakarta lundi concernant l'orientation au Comité pour la gestion de la reprise économique nationale et la gestion de COVID-19. Le président a appelé le Comité de gestion de COVID-19 et de la reprise économique nationale à prendre des mesures décisives pour pouvoir travailler plus rapidement. Sur le budget de gestion de COVID-19 et de la reprise économique nationale qui ont été réalisés, la réalisation du budget pour les programmes de protection sociale est de 38%. La réalisation des mesures de relance pour les micro et petites moyennes entreprises n'est que 25%. Le ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a demandé à l'Indonésie de pouvoir suivre les mesures prises par l'Allemagne, la Russie et Taïwan pour surmonter la pandémie de COVID-19. Les trois pays sont classés comme des pays qui se remettent rapidement de cette situation. C'est ce qu'a affirmé lundi par Luhut Panjaitan lors de la signature de l'accord de partenariat sur le placement de l'argent de l'État dans le cadre de la reprise économique nationale à Jakarta. Luhut Panjaitan a déclaré que les trois pays étaient très compacts pour faire face aux effets de la pandémie de COVID-19 afin que le rétablissement puisse être effectué rapidement. Par conséquent, Luhut a appelé le gouvernement et le peuple indonésien à être compacts dans la résolution de la pandémie de COVID-19. La Chine a de nouveau signalé une flambée de nouveaux cas de virus corona, soit 61 infections lundi. Ce chiffre est même le plus élevé depuis avril. La Commission nationale de la santé a enregistré 57 cas de propagation locale et 4 cas d'importation. Il s'agit du nombre quotidien le plus élevé de nouveaux cas depuis le 14 avril, lorsque le pays a enregistré 89 infections par jour. Comme cité par l'AFP, la plupart des cas de propagation locale ont été trouvés dans le Xinjiang, qui abrite la minorité ethnique musulmane ouïghour. La propagation s'est produite dans la capitale du Xinjiang, Urumqi, et s'est étendue aux villes voisines. En dehors de cette zone, 14 cas ont également été enregistrés dans la ville de Dalian, province du Liaoning. Ensuite, 2 cas locaux ont été trouvés dans la province de Jilin, près de la frontière nord-coréenne. La société pharmaceutique sud-coréenne SK Bioscience, soutenue par Bill Gates, pourrait produire 200 millions de kits de vaccins pour coronavirus en juin de l'année prochaine. C'est ce qu'a déclaré Bill Gates lui-même dans une lettre adressée au président sud-coréen Moon Jae-in. Reportage de Bloomberg à Jakarta, lundi, Gates tente de travailler avec la Corée du Sud. Cela a été révélé par le bureau présidentiel de Séoul. La fondation milliardaire américaine a donné 3,6 millions de dollars américains en mai à SK Bioscience pour accélérer le développement du vaccin COVID-19. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voici le commentaire d'aujourd'hui sur la détection précoce de l'hépatite B pour l'avenir sans hépatite. Aujourd'hui, le 28 juillet, le monde commémore en tant que journée mondiale contre l'hépatite. À un moment où le monde s'efforce de vaincre COVID-19, qui a infecté environ 16,39 millions de personnes, la commémoration de la journée mondiale contre l'hépatite n'est pas trop forte. Mais pour l'Indonésie, la journée mondiale contre l'hépatite est un jour important. L'histoire a enregistré la détermination de la journée mondiale de l'hépatite n'était pas séparée de la proposition de l'Indonésie. La 126e réunion du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé le 23 janvier 2010 a approuvé la proposition de la délégation indonésienne de fixer le 28 juillet comme journée mondiale de l'hépatite. La détermination est pour lutter contre l'hépatite dans chaque pays. Depuis sa création, chaque 28 juillet, le monde commémore la journée mondiale contre l'hépatite avec un thème de campagne spéciale. Le thème de cette année est un avenir sans hépatite, en particulier sur la prévention de l'hépatite B chez les mères et les nouveau-nés. Le 28 juillet 2020, l'Organisation mondiale de la santé a publié une nouvelle recommandation sur la prévention de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Selon les registres de l'Organisation mondiale de la santé, environ 325 millions de personnes vivent actuellement avec les virus de l'hépatite B et C. Chaque année, environ 900 000 personnes meurent en raison de l'infection par le virus de l'hépatite B. L'Organisation mondiale de la santé appelle tous les pays à coopérer pour éliminer le virus de l'hépatite en tant que menace pour la santé publique en 2030. En Indonésie, les efforts visant à arrêter la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant sont toujours une priorité pour le gouvernement. Directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles directes de la Direction générale du ministère de la Santé de la République d'Indonésie, Wiendra Waworuntu, lors d'une discussion en ligne dont le thème est « Détectons l'hépatite B précoce » lundi dernier, suggérant qu'un certain nombre de stratégies d'accélération effectuées, à savoir la première est l'amélioration qualité des services standards contre l'hépatite par le programme de législation sanitaire de 2020. La deuxième stratégie consiste à accroître la couverture de la détection précoce de l'hépatite B intégrée chez les femmes enceintes en vue d'une triple élimination du VIH, des syphilis et de l'hépatite B en 2022. Le gouvernement indonésien doit redoubler d'efforts, pas seulement parce qu'il faut moins de 2 ans pour atteindre cet objectif, surtout compte tenu de la prévalence de l'hépatite B en Indonésie est encore très élevée. Selon les dossiers du ministère de la Santé, chaque année, selon les estimations, 120 000 bébés souffriront d'hépatite B et 95% pourraient souffrir d'hépatite chronique, telle que la cirrhose ou le cancer du foie, au cours des 30 prochaines années. La responsabilité incombe non seulement au gouvernement indonésien, mais toutes les composantes de la nation doivent également participer, depuis la détection précoce, en particulier les mères enceintes. Ils effectuent régulièrement des contrôles et des traitements. S'il est prouvé qu'une personne a l'hépatite B ou C, elle peut être vaccinée immédiatement. Les sociétés pharmaceutiques ou BPJS de la santé peuvent participer et canaliser les fonds de responsabilité sociale des entreprises pour fournir des services d'inspection gratuits au public. Grâce à des efforts conjoints, on réalisera un avenir sans hépatite. Que vous soyez toujours en bonne santé et sans hépatite, bonne journée mondiale contre l'hépatite.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 28 juillet. Le 28 juillet 1914, l'Autriche et la Hongrie ont déclaré la guerre à la Serbie comme le début de la Première Guerre mondiale. Un mois après que le prince héritier de l'Empire hongrois, Franz Ferdinand, et sa femme aient été tués par un nationaliste serbe, l'Autriche et la Hongrie ont déclaré la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914. En réponse, la Russie, en tant qu'alliée de la Serbie, a officiellement ordonné la mobilisation dans 4 districts militaires de Galice à la frontière entre l'Autriche et la Hongrie. Commence alors la Première Guerre mondiale qui implique toutes les grandes puissances, notamment en Europe. Dans la guerre, il y avait 2 alliances hostiles, à savoir les alliés comprenant la Grande-Bretagne, la France et la Russie, et la puissance centrale composée de l'Allemagne, l'Autriche, l'Hongrie et l'Italie. Le 28 juillet 1976, le tremblement de terre de Taksan, au nord de la ville de Pékin. Un tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter a dévasté la ville minière de plus d'1 million d'habitants. On estime que le nombre de victimes a atteint plus de 250 000. Il estimait que cette catastrophe était le plus grand séisme du XXe siècle. Le 28 juillet 1990, Alberto Fujimori devenait président du Pérou. Alberto Kenya Fujimori, d'origine japonaise, est devenu président du Pérou du 28 juillet 1990 au 17 novembre 2000. Dans son mandat, Fujimori a réussi à rétablir la stabilité macroéconomique. Fujimori a également réussi à libérer des dizaines de personnes retenues en otage par des rebelles Tupac Amaru dans une attaque contre la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima. Mais il a également été critiqué comme un dirigeant autoritaire. À la fin de 2000, après la réunion de la CEAP à Brunei, il est allé au Japon et a démissionné en tant que président du Pérou en envoyant une lettre de démission par fax à l'ambassade du Pérou au Japon. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec Mon Indonésie et en beau titre, l'Indonésie reçoit l'aide australienne de 100 ventilateurs non invasifs pour la gestion de COVID-19. Le gouvernement indonésien reçoit une assistance en matériel médical du gouvernement australien pour le traitement de la COVID-19. L'aide de 2 millions de dollars australiens, soit environ 19,8 milliards de roupies, est une forme de grande préoccupation de la part du gouvernement australien pour soutenir l'accélération de la gestion des maladies causées par le virus SARS-CoV-2. Une assistance sous la forme de 100 ventilateurs non invasifs est nécessaire pour la prise en charge des patients de COVID-19 en Indonésie, comme indiqué dans covid19.go.id. Cet équipement médical aidera l'Indonésie à l'avant-garde et accélérera le traitement dans un contexte médical. Symboliquement, l'assistance a été remise de charge d'affaires de l'ambassade d'Australie, Alistair Cox, au président du groupe de travail sur la gestion du COVID-19, Donny Monardo, à Graha BNPB Jakarta, vendredi 23 juillet. À cette occasion, Donny Monardo, au nom du gouvernement indonésien, a exprimé sa plus haute appréciation et a remercié le gouvernement australien, ses voisins proches, ses bons amis et tant que partenaires stratégiques, entre autres, de travailler ensemble pour faire face au COVID-19. Pour le gouvernement australien, un certain nombre de ventilateurs font partie d'un ensemble d'équipements médicaux et de laboratoires critiques d'une valeur de 19,4 milliards roupies pour soutenir la réponse et la récupération de la COVID-19 en Indonésie. En outre, l'assistance du gouvernement australien fait partie de l'engagement de l'Australie à travailler avec l'Indonésie pour soutenir la rapidité de la réponse sanitaire, humanitaire et économique et les besoins de relèvement en Indonésie. Ces ventilateurs et fournitures médicales font partie du paquet de réponse de la COVID-19 de l'Australie de 203,7 milliards roupies pour l'Indonésie comme supplémentaire de la commutation de programmes pour les activités COVID-19 d'une valeur de près de 436 milliards roupies sur une valeur totale de 2,9 billions roupies de programmes de développement indonésien donnés par le gouvernement australien. Pendant ce temps, sur le site web de l'ambassade d'Australie pour l'Indonésie, l'ambassadeur d'Australie en Indonésie, Gary Quinlan, a déclaré que l'Australie était aux côtés de l'Indonésie dans la lutte contre la COVID-19. Selon lui, la pandémie a grandement affecté la région Indo-Pacifique. L'Australie continuera donc à travailler en partenariat avec l'Indonésie pour minimiser l'impact de la COVID-19. L'ambassadeur Quinlan a également expliqué que 100 ventilateurs non invasifs, des fournitures médicales et du matériel de laboratoire envoyés à l'équipe spéciale nationale indonésienne aideraient le personnel médical de première ligne à fournir une assistance vitale et soutenir le personnel du laboratoire avec des fournitures importantes. Chers amis, c'était Mon Indonésie.
de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel, introduisant la cérémonie traditionnelle Padungku. La plupart des habitants de la région Poso, en province Sulawesi Central, travaillent comme agriculteurs. En tant qu'agriculteurs, leur vie ne peut pas être séparée des divers processus initiaux de plantation du riz jusqu'à la récolte. Dans cette dernière étape, à savoir la récolte, le peuple Poso a un rituel traditionnel comme expression de sa gratitude pour l'abondante récolte. Cette cérémonie traditionnelle est connue sous le nom de Padungku. Padungku en Poso signifie être fini. Dans ce cas, l'agriculteur a terminé la récolte de ses récoltes, des outils agricoles tels que ani-ani, charrues et broyeurs à riz ont été utilisés et la récolte a été stockée dans la grange. Lorsque la récolte a été enregistrée et que les résultats sont cuits, un dîner aura lieu ensemble. C'est alors qu'elle s'appelle Padungku, le jour de la récolte. Manger ensemble se fait selon un principe de base, des jeunes au service des parents. Lors de la préparation de la célébration du Padungku, tous les villageois seront généralement occupés à préparer toutes les nécessités de la cuisine, comme le bois, le bambou, le meilleur riz, et à inviter toutes les familles à manger ensemble. Des repas communs auront lieu à la salle des fêtes, où tous les résidents apportent leur propre nourriture et seront distribués plus tard avec d'autres villageois. Ce processus est appelé Molimbu, mais maintenant ce processus est rarement effectué, car les résidents mangent ensemble dans leurs maisons respectives. Après avoir mangé ensemble dans leurs maisons respectives, la communauté se rendra visite. Dans ce programme de repas conjoint, une variété de délices culinaires typiques de Poso ont été servies, telles que du sagu ou dui, du riz bambou ou inuyu et baru. Inuyu est un culinaire à base de riz. Le riz est ensuite mis dans un morceau de bambou, puis cuit par cuisson, tandis que baru est une boisson Poso traditionnelle tirée de la sève d'un palmier. Après avoir mangé ensemble, la cérémonie traditionnelle Padungku s'est poursuivie avec rime réciproque entre mari et femme. Ensuite, l'excitation de l'événement s'est poursuivie en chantant des chansons traditionnelles Poso et en dansant ensemble.
Chers amis, c'est le magazine culturel.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Dengarlah, dengar, wahai para lelaki, wanita ada tuh kau lindungi. Janganlah kau sakiti dia, wanita pantas untuk dilindungi. Berikan sebuah cinta tulus untuknya, bahagiakan selamanya. Janganlah kau sakiti dia, wanita pantas untuk dilindungi. Berikan sebuah cinta tulus untuknya, bahagia
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue et du livre du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa totalnya? Berapa totalnya? Ou en langue française, quel est le total? Cher ami, vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation et un pour titre Berapa totalnya? Berapa totalnya? Ou en langue française, quel est le total? La situation est à la cantine. Kevin a demandé à la caissière combien il devait payer pour la nourriture.
Berapa total semuanya?
Semuanya 70.000. Bayar dengan uang tunai atau kartu?
Tunai saja. Ini uangnya, 70.000 rupiah.
Chers amis, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire liant au thème d'aujourd'hui, à savoir berapa totalnya, berapa totalnya, ou bien en français, quel est le total. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez me répéter. Bonne écoute. Berapa total semuanya, berapa total semuanya. En français, quel est le total? 70.000. 70.000. En français, 70.000. Bayar. Bayar. En français, payer. Uang. Uang. En français, argent. Tunai. Tunai. En français, en espèces. Kartu. Kartu. En français, par carte. Chers amis, après avoir mangé, l'acheteur paie la nourriture à la caissière. Pour demander combien il faut payer, l'acheteur peut utiliser la phrase « berapa total semua ?»« Berapa total semua ?» Ce qui signifie « quel est le total ?»« Quel est le total ?» Voici un autre exemple de son utilisation. Quand vous demandez « berapa total semua ?»« Berapa total semua ?» Ce qui signifie « quel est le total ?» Vous obtiendrez une réponse, par exemple « semua jadi 80.000 rupiah ».« Semua jadi 80.000 rupiah ». En français, le total est 80.000 rupiah. Ensuite, vous pouvez dire « ini uangnya 80.000 rupiah ». Ini uangnya 80.000 rupiah. En français, c'est 80.000 rupiah. Chers amis, avant de terminer apprendre l'indonésien pour aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons encore une fois l'exemple de la conversation. Bonne écoute.
Berapa total semuanya?
Semuanya 70.000. Bayar dengan uang tunai atau kartu?
Tunai saja. Ini uangnya 70.000 rupiah.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci beaucoup pour être fidèle avec nous. Au revoir.
bintang yang tak sempat ucap kata berpisah pada sang mentari. Barisan mega pun tak cukup merangkai sebaik puisi pada langit cerahnya hilang diterpa hujan. Oh, sedihnya hatiku kala melihat kau tiada.
Voice of Indonesia.
Tetaplah jangan
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, vous êtes avec moi Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson intitulée « Bunga Melur » chantée par Tiar Ramon. Chers auditeurs, la chanson « Bunga Melur » ou bien « Fleur de Melur » a été composée par P. Ramli. Les paroles de cette chanson sont pleines de figures de style. Une personne est comparée à une fleur de melur, qui est blanche, simple, avec une odeur étroyante. À l'avenir, on espère qu'il sera loué et adoré. La musique de cette chanson est triste avec un tempo lent. Tiar Ramon est une chanteuse de Padang Pariaman dans l'ouest de Sumatra. Elle est connue pour avoir créé et popularisé des chansons en duo minang, Badinding, Risaulai, Usah Diratoki, et sa chanson célèbre chantée avec Eli Kasim, Bapisah Bukanyo Bacharai. En plus de vulgariser les chansons minang, Tiar Ramon a également popularisé les chansons malaises. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Bunga Melur chantée par Tiar Ramon. Bonne écoute.
Tempatmu bunga melur, bukan di taman yang indah bunga melur, hanya di sudut halaman tiada dihiasi jambangan indah permai. Hati warnamu yang putih bunga melur, tandanya suci dan murni. Ibarat gadis desa bunga melur sederhana, walau kering tak bercahaya bunga melur, baumu memikatnya. Moga sabarlah dahulu bunga melur, ada di suatu hanya akan menjelma, disanjung dan dipuja oleh gadis remaja. Tempatmu bunga melur, bukan di taman yang indah bunga melur, hanya di sudut halaman tiada dihiasi jambangan indah permai. Hati warnamu yang putih bunga melur, tandanya suci dan murni. Walaupun
sabarlah dahulu bunga melur. Ada di suatu ketika bunga melur, masanya akan menjelma, disanjung dan dipuja oleh gadis remaja.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.